Mémoire vive, présentée par Eve Cheftel et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Et puis, j'ai découvert l'œuvre de Charlotte, par le plus grand des hasards. Je ne savais pas ce que j'allais voir, je devais déjeuner avec une amie qui travaillait dans un musée. Elle m'a dit « Tu devrais aller voir l'exposition ». C'est tout ce qu'elle a dit. Peut-être a-t-elle ajouté « Ça devrait te plaire ». Mais je ne suis pas sûre, rien de prémédité. Elle m'a guidée vers la salle et ce fut immédiat. Le sentiment d'avoir enfin trouvé ce que je cherchais. Le dénouement inattendu de mes attirances. Mes errances m'avaient conduit au bon endroit. Je le suis dès l'instant où je découvris vie ou théâtre. Tout ce que j'aimais, tout ce qui me troublait depuis des années, Warburg et la peinture, les écrivains allemands, la musique et la fantaisie, le désespoir et la folie, tout était là, dans un éclat de couleurs vives. Bonjour David Fonkinos.
Bonjour.
J'ai lu un extrait de votre dernier livre, qui est votre 13e roman, que vous avez intitulé tout simplement Charlotte, qui vient de paraître aux éditions Gallimard et qui retrace la vie de la peintre juive allemande Charlotte Salomon, qui est morte à Auschwitz en 1943. Mais pour nos auditeurs qui n'ont pas vu l'exposition que lui a consacrée le Musée d'art et d'histoire du judaïsme en 2006, peut-être pouvez-vous nous dire un peu plus qui était Charlotte Salomon ?
Charlotte Salomon, c'était effectivement une peintre allemande qui a un destin tragique, voilà, qui s'est exilée dans le sud de la France, qui a fui le nazisme. Et entre 1940 et 1942, elle a peint une œuvre autobiographique, voilà, une 1300 gouaches où elle raconte toute sa vie, toute son enfance, une œuvre éblouissante qu'elle a donnée à un médecin dans le sud de la France, peu de temps avant d'être dénoncée et déportée. Et elle est morte immédiatement à Auschwitz puisqu'elle était enceinte. Donc voilà, c'est à la fois une immense artiste qui a laissé une œuvre vraiment incroyablement puissante. Et tous ceux qui ont la chance de la voir ou d'aller sur Google regarder quelques images sont éblouis par sa force et sa lumière. Et aussi, une vie brisée et une femme que moi j'estime fascinante à plein d'égards.
Votre livre s'apparente par certains aspects à une biographie, pas tout à fait classique, mais est-ce que vous pouvez rentrer un peu dans le détail de sa vie et notamment de ce lourd passé qu'elle traîne avec elle ?
Oui, ce livre, c'est une biographie, c'est un livre qui a trois dimensions. Il y a les émotions que je ressens, voilà, face à son œuvre, face à sa vie, ma quête, je suis allé sur tous les lieux de sa vie. Il y a ma description de son œuvre et le premier plan, c'est évidemment sa vie, sa biographie. Alors il faut savoir que malheureusement, Charlotte Salomon, à part quelques expositions, est un peu tombée dans l'oubli. Peu de gens la connaissent, ce qui est pour moi une sorte de scandale historique par rapport à son talent et à qui elle était. Et je vais mettre toute mon énergie pour qu'on la découvre. Donc il y avait peu de documents et j'ai fait beaucoup de recherches les dernières années pour recomposer son parcours. Elle est née à Berlin en 1917. Sa vie est marquée d'entrée par une tragédie familiale puisque sa mère se suicide, un suicide qu'elle apprend bien plus tard et son père va se remarier avec une cantatrice très, très célèbre dans l'Allemagne des années 30 et donc elle va baigner comme ça dans cet univers culturel de l'Allemagne des années 30, une Allemagne avec beaucoup d'intellectuels, c'est l'époque de la grande domination artistique, scientifique, voilà toute cette génération si brillante qui va être progressivement brisée et réduite à néant, puisque le père de Charlotte, grand médecin, ne pourra plus exercer, la belle-mère, cantatrice éminente, ne pourra plus non plus se produire.
Il y a une scène marquante dans votre livre où elle se fait huer.
Oui, c'est terrible.
La fin d'une,
tout à fait, elle se fait.
C'est une
diva. Beaucoup de public, détourné en Europe, et puis un jour à Berlin, comme ça, elle est sifflée, et on la chasse. Et progressivement, voilà, tout ce milieu artistique, intellectuel, va être de toute façon réduit à néant dans une sorte de ghetto artistique, et Charlotte doit quitter l'école. Alors après, elle est une des seules, il y a un quota pour les élèves juifs aux Beaux-Arts de Berlin, une des seules femmes, donc elle intègre en 1938, ce qui est quand même assez exceptionnel, les Beaux-Arts de Berlin, où elle obtient le premier prix. du concours. Mais
grâce à l'appui d'un professeur qui déjà...
Pas pour le prix, mais en tout cas pour rentrer au Beaux-Arts, tout à fait. Oui. Elle fait le concours d'entrée, le professeur est subjugué par son talent. Et il y a toute une réunion, c'est terrible ça, hein. J'ai revu les archives, il y a toute une réunion pour peser le pour et le contre, de savoir si elle ne posait pas un problème pour les élèves à rien de faire entrer comme ça une femme juive. Et le professeur, au lieu de parler de son talent, parle de sa personnalité en disant qu'elle est très discrète et qu'elle ne procurera aucun danger pour l'équilibre de l'école, ce qui est une atrocité totale. Et effectivement, elle gagne le premier prix qu'elle n'a pas le droit d'aller chercher, c'est sa meilleure amie Barbara, une arienne... absolument impeccable, qui va le prendre à sa place. C'est l'humiliation suprême de trop, et elle est poussée par son père et sa belle-mère à s'exiler, à quitter, à rejoindre ses grands-parents dans le sud de la France à ce moment-là. Elle quitte non seulement sa famille, ses amis, sa vie, mais aussi son grand amour.
Alors vous pouvez peut-être en dire un mot, puisque c'est grâce à lui qu'elle découvre en quelque sorte sa véritable vocation, en tout cas... qu'elle découvre qu'elle est une artiste.
Oui, je raconte beaucoup, ça m'a mis beaucoup de temps à essayer de recomposer cette histoire qui est assez mystérieuse.
Vous qui êtes appuyé sur sa propre œuvre. Hein.
Oui, voilà, il faut bien répéter que l'œuvre picturale de Charlotte Salomon, ses tableaux sont des tableaux autobiographiques qui se regardent et se lisent comme un roman, et on est happé par son histoire tout autant que par ses capacités artistiques. Et donc, ma principale source d'inspiration, c'était ce qu'elle avait dessiné, mais son œuvre s'appelle Vie ou théâtre. Donc où est la réalité, où est le fantasme de l'artiste? Elle dessine à l'infini plus tard, quand elle est dans le sud de la France, le visage de cet homme qui est vraiment obsessionnel pour elle, hein. Il s'appelle Alfred, c'était un professeur de chant, un artiste un peu fou, voilà, survivant de la Première Guerre mondiale, très étrange, atypique, qui va être une révélation pour elle, un Pygmalion, un mentor. Donc, est-ce que leur histoire a vraiment eu lieu ? Moi, je pense que oui, quand on voit tous les dessins qu'elle a après produit de son visage. Et c'est l'histoire la plus importante dans la vie de Charlotte. C'est quelqu'un qui lui a donné la force d'avoir confiance en elle, qui l'a poussée à travailler, à progresser. Et plus tard, quand il y a une scène d'ailleurs magnifique, quand elle quitte Berlin, elle est sur le quai de gare, elle sait qu'elle quitte sa vie. En plus, d'une manière terrible, elle n'a pas le droit de prendre trop d'affaires, puisqu'elle fait croire que c'est pour un visa de 2-3 jours pour aller voir ses grands-parents. Donc
dans
elle
le
part,
sud de la France.
Voilà, elle part avec pratiquement rien. Et sur le quai de gare, Alfred lui dit « Puisses-tu ne jamais oublier que je crois en toi ?» qui est une phrase d'une grande force et d'une grande beauté. Et quand elle sera vraiment esselée,
elle se
souviendra de cette phrase.
C'est comme un viatique.
Exactement. Quelqu'un croit en elle. Et quand une personne croit en nous, alors qu'on est... réduite à néant, peut-être que c'est la seule force qui nous permet de tenir.
Quelles sont ses influences en matière de peinture, si on peut... Vous avez parlé de l'intellectuel, ce milieu intellectuel, artistique, d'avant-garde de Berlin.
C'est toute la beauté et la force de Charlotte Salomon, c'est-à-dire qu'elle est à la fois très inspirée. L'inspiration la plus forte, c'est sûrement Chagall, mais il y a aussi beaucoup Van Gogh, la peinture de la Renaissance italienne. Elle a fait des voyages avec ses grands-parents, elle a beaucoup étudié. Mais il y a une sorte d'éclat de modernité qui est très impressionnant dans l'œuvre de Charlotte Salomon. D'abord, il faut dire que c'est une œuvre qui se suit donc comme une histoire, mais il y a aussi des indications de musique et des textes littéraires, des textes d'une très grande beauté. Vraiment, elle écrivait admirablement bien.
Soit accompagne le dessin, soit sont même...
Dans le dessin, ah oui, tout ça.
C'est très,
très,
très
beau, ça.
Un peu comme une bande dessinée, d'ailleurs.
Exactement.
Par certains aspects.
Oui, avec aussi une grande inspiration.
On pense à Chagall, mais on pourrait penser aussi à Johann Sfar, enfin, je veux dire,
oui, complètement,
par certains aspects.
Bien sûr, bien sûr. Elle est précurseur de beaucoup de choses, hein. Et en plus... très influencée par le cinéma allemand des années 30, expressionniste, avec des cadrages, avec des innovations dans les plans. Il y a vraiment un mouvement, il y a une tridimension dans l'œuvre qui est ce qu'on appellerait maintenant un peu interactive, puisque le musée juif d'Amsterdam, qui a été légué plus tard l'œuvre, a édité un CD-ROM où on voit défiler les peintures avec les textes lus et les indications de musique qu'elle a indiquées.
Il y a même, j'ai consulté donc le catalogue qui j'espère est toujours disponible, enfin que je conseille aux auditeurs de se procurer, qui a été édité donc par le musée au moment de l'exposition. Et il y a une de ses peintures qui représente le suicide de sa tante qui s'appelait Charlotte, et on voit le personnage descendre de chez elle, donc descendre l'escalier, puis ensuite marcher dans la rue. On le voit à différentes étapes, c'est une peinture véritablement dynamique.
Mmh,
on la voit ensuite longer la berge, ensuite se
fait.
Jeter à l'eau, puis disparaître, être happé par les eaux
tout
noires.
Tout à fait. J'espère vraiment que mon livre donnera envie aussi de... Et là, tous les messages que j'ai actuellement depuis la sortie du livre, voilà, sont des messages de personnes qui veulent découvrir l'œuvre de Charlotte. Alors, effectivement, il y a ce très très beau catalogue qui a été édité par le... musée d'histoire, d'art et du judaïsme à Paris. Et donc, j'espère qu'il va être réimprimé. Gallimard aussi a très envie de faire une œuvre des dessins de Charlotte. Donc, c'est vraiment au-delà de l'histoire, parce que mon roman, c'est un portrait de femme, c'est un moment d'histoire tragique, mais j'ai envie vraiment qu'on redécouvre son œuvre qui est, à mon avis, injustement, tombée un peu dans l'oubli.
Ouais.
Oui, méconnue, voilà, tout à fait.
Et alors, ma question, est-ce que son œuvre connue, on va dire, qui a survécu, se réduit à cette pièce chantée, ou est-ce qu'il y a d'autres peintures qui nous sont parvenues
Non, l'œuvre majeure et principale, c'est évidemment cette œuvre qui s'appelle Le Vie ou Théâtre, hein, qui est une pièce chantée, effectivement. Elle indique ça, ce qui est très beau d'ailleurs. Mais il y a des dessins. Elle a été, dans le sud de la France, recueillie par une riche américaine. Il y avait beaucoup d'orphelins, il y avait beaucoup d'enfants abandonnés dans la maison. Elle leur a fait beaucoup de dessins, des dessins qu'on peut retrouver à Yad Vashem, notamment. Il y a une salle Charlotte Salomon après le musée, et beaucoup de ses enfants ont légué ces dessins après à Yad Vashem. Il y a quelques dessins, évidemment, qui sont antécédents à l'œuvre. Sur mon livre, il y a un bandeau avec un autoportrait de Charlotte Salomon qui est magnifique, mais qui ne fait pas partie de l'œuvre Vie ou Théâtre. Mais à 95%, à 98%, on connaît toute l'œuvre de Charlotte Salomon, et elle est quasiment exclusivement représentée dans Vie ou Théâtre.
Alors justement, revenons à votre livre qui s'appelle Charlotte. Alors, on sent tout au long du livre une grande proximité, je dirais même une familiarité. Vous l'appelez Charlotte, vous ne l'appelez pas Charlotte Salomon, encore moins Madame Salomon. Et comme si elle était votre petite sœur, ou même une femme aimée. On sait que vous êtes le romancier de l'amour. Enfin, je rappelle que vous êtes l'auteur du potentiel érotique de ma femme, de la délicatesse que vous avez d'ailleurs porté à l'écran avec votre frère. Donc, vous prenez souvent ce sujet, vous prenez le risque de prendre ce sujet, l'amour. Et c'est aussi un livre sur l'amour. Et on a un peu l'impression, en lisant ce livre, si vous me pardonnerez, que vous êtes tombé aussi amoureux de Charlotte Salomon.
Mais je vous pardonne volontiers. Si j'ai décidé de l'appeler Charlotte, c'est évidemment parce que durant toutes ces années, j'ai développé une fascination qui est proche du tutoiement, de la conversation, je ne vais pas dire amoureuse, mais une forme de tendresse, de fraternité. Vous savez, quand vous allez sur les traces de quelqu'un que vous admirez, vous êtes en bas de chez elle à Berlin, vous allez voir son école,
alors
vous allez sur tous les lieux de sa vie.
C'est ça, vous dites « je sonne chez Charlotte ». Mais alors... Bon. Vous êtes mal reçu d'ailleurs ce jour-là, mais...
Pour moi, c'était très important d'appeler le livre Charlotte, parce que j'avais presque envie de, pas de créer une communauté, mais de prendre aussi le lecteur par la main et de l'amener dans cette intimité. C'est un livre très personnel. C'est la première fois que je parle de moi à la première personne. J'ai toujours écrit des romans, des fictions, que ce soit La Délicatesse, Les Souvenirs. Ce ne sont pas des livres autobiographiques. Pour la première fois, je parle de ce que j'éprouve, de ce que je ressens. Et si j'en parle, c'est que c'est un... Ça a été un bouleversement dans ma vie. C'est une fascination qui dure depuis 8 ans, qui me hante. J'ai essayé d'écrire ce livre d'une manière incessante. Je l'ai abandonné de nombreuses fois. Donc pour moi, c'est merveilleux aussi maintenant d'avoir réussi à l'écrire et de pouvoir parler d'elle et de tout faire pour la faire connaître. Elle est présente dans d'autres de mes livres. Je parle déjà d'elle dans Les Souvenirs ou dans d'autres de mes livres.
Vous dites que vous avez mis beaucoup de temps justement à donner une forme à votre obsession. Hein, c'est votre terme d'obsession. Alors cette forme, qui est assez déroutante, pourrait s'apparenter à un poème en prose, ou simplement vous avez choisi d'utiliser un renvoi systématique à la ligne, et ce qui donne quand même un rythme particulier à la lecture, un rythme un peu haché, comme un staccato, comme ça, qui est éprouvant, Mais peut-être que c'est volontaire, justement.
Oui, c'est volontaire et je suis très très heureux de tous les premiers retours de lecture. Je pense que ça, étrangement pour moi, ça laisse une respiration. La vie de Charlotte Salomon est suffocante par moments. L'écrire a été complexe, douloureux, suffocant. J'ai ressenti la nécessité, après des années de tentatives de diverses formes littéraires, j'ai compris, j'ai ressenti physiquement que après chaque phrase, j'avais besoin d'aller à la ligne. Et donc, ça ne s'explique pas plus que ça. Pour moi, on est très loin de l'expérience de la lecture de la poésie. C'est juste un roman où, après chaque phrase, on va à la ligne. Et je trouve que, en ce qui me concerne, et les retours de lecteurs aussi abondent dans ce sens, ça donne aussi une forme de douceur et de légèreté, alors qu'on traverse vraiment les pages les plus sombres de l'histoire et une vie violentée sans cesse. Et pour moi, c'était une façon aussi d'être presque en adéquation avec l'œuvre de Charlotte Salomon, qui est une œuvre pleine de grâce, pleine d'élégance, qui n'est pas boursouflée par le pathos. Et c'est ainsi que je l'ai ressenti. Et c'est vrai que c'était un risque littéraire, mais tout est de toute façon dans ce livre une création la plus sincère possible, avec des particularités, sans penser à ce qu'on va pouvoir penser. Et voilà, maintenant que le livre est enfin publié et que j'ai les lecteurs qui le lisent, je suis heureux que cette façon d'aborder le texte ne à mon avis colle parfaitement à ce que je voulais faire.
Vous parlez de grâce, c'est vrai qu'il y a des moments de grâce dans ce livre, que d'ailleurs cette succession de phrases courtes contribue à faire émerger, et en même temps ça donne comme un sentiment d'urgence, vous voyez, comme une... On ressent aussi la frénésie qui a été sa vie, qui a été aussi cette ardeur à créer, ses passions amoureuses.
C'est exactement ça. Vraiment, c'est un aller-retour entre une forme de nécessité de respirer, donc d'alléger. Et en même temps, ça crée effectivement, vous avez complètement raison, un sentiment d'urgence. Et surtout, quand on arrive sur les dernières pages, sur les dernières semaines, les derniers mois de Charlotte Salomon, où elle-même... Elle est dans cette urgence. L'œuvre de Charlotte Salomon est criante à cet égard. C'est-à-dire qu'au début, les dessins sont extrêmement peaufinés, sont magnifiques, on sont comme des tableaux. Et elle finit, 2 ans plus tard, à faire des croquis extrêmement rapidement pour aller au bout de son projet, comme si elle avait l'intuition. Elle savait peut-être qu'elle risquait d'être arrêtée. Et c'est vrai que même la scène finale où elle va voir son médecin, elle lui donne tous les tableaux, en lui disant cette phrase bouleversante, c'est toute ma vie. Voilà, et ce médecin, c'est grâce à cet homme-là que l'œuvre a été protégée et a pu ressurgir plus tard après la guerre.
Parce qu'il faut préciser qu'il y a une double menace qui pèse sur elle. Alors, la menace, évidemment, d'être arrêtée, puisqu'elle n'arrive pas à s'enfuir. Elle aimerait, à un moment donné, partir au Portugal avec via le Portugal en Amérique avec la riche américaine, mais aussi... Une menace, alors, on va dire, héréditaire, qui pèse sur cette famille, cette malédiction. Peut-être qu'ils étaient maniaco-dépressifs, on ne sait pas exactement ce qu'ils avaient. Enfin, il y a sans doute un gène maniaco-dépressif, puisqu'il y a eu de nombreux suicides, comme il y a une épidémie de suicides dans cette famille. Et donc, elle a peur qu'elle aussi soit gagnée par la folie et que cette pulsion morbide prenne le pas.
Oui, c'est très, très impressionnant, parce qu'avant la Seconde Guerre mondiale, il y a comme ça cet atavisme morbide dans la famille de Charlotte Salomon, où toutes les femmes de sa famille, toute la lignée des femmes s'est suicidée, ce qui est extrêmement violent, déroutant, incompréhensible aussi par moments. Et on est dans une sorte de...
Son arrière-grand-mère, sa tante, sa mère, sa grand-mère,
et alors,
qu'elle n'arrive pas à
protéger. Et alors justement, ça fait partie des choses qui me fascinent chez Charlotte Salomon et qui me procure un rapport de beauté et de force à son égard, c'est que je pense vraiment qu'elle est un exemple de l'idée qu'on peut surmonter à la noirceur, aux cendres, en trouvant une forme de lumière en soi. Il y a quelque chose de l'ordre de cette énergie-là dans son œuvre aussi, où elle s'extirpe de ses origines, elle s'extirpe de la douleur et de la noirceur qui l'entoure, en en se plongeant dans une création totale, démente, qui est un monde. Elle recrée un monde à travers sa création. C'est pour ça aussi qu'elle appelle vie ou théâtre. C'est-à-dire qu'elle s'échappe de sa propre vie pour la réinventer. Et c'est la seule manière, finalement, de quitter sa destination, qui est la destination de toutes les femmes. Alors, c'est à la fois magique et tragique, puisque elle s'en échappe, mais le destin fait qu'elle est, elle est rattrapée par, par cette, cette forme de malédiction familiale.
Sauf qu'elle, d'une certaine façon, ne choisit pas de mourir.
Oui. Mais la mort, dénoncée, la mort dénoncée, est quand même la mort est, est, est au cœur de toute sa vie et elle finit par la mort la plus brutale qui soit, c'est-à-dire à Auschwitz alors qu'elle est enceinte, gazée immédiatement dès son arrivée après des semaines d'errance entre Drancy, le avoir été parquée à l'Excelsior à Nice. Je veux dire, c'est on est dans presque dans l'éclat atroce de la mort.
Est-ce que ces pages ont été difficiles à écrire, les dernières ?
Elles ont été extrêmement difficiles à écrire. Extrêmement difficiles à écrire.
Vous autorisez, d'une certaine façon, à imaginer ce qui lui est arrivé.
Oui. Oui, c'est vrai, vous pouvez le dire comme ça, mais à vrai dire, moi, mon livre, je le porte depuis tellement longtemps, je porte tellement en moi l'idée de faire connaître Charlotte, comme d'une manière presque étrange et mystique aussi. J'en parle aussi dans le livre, elle me trouble. Quand j'ai découvert, ça m'a tellement touché aussi pour de nombreuses raisons. Donc, ça m'a plutôt encombré pendant des années, l'idée que son destin soit lié à la Shoah.
Et puis se réduire finalement à ça.
Exactement, vous avez raison. Donc, moi, j'étais plutôt, au contraire, c'est ce qui m'a arrêté de nombreuses fois. Pas une question d'autorisation ou pas d'autorisation. J'ai le droit de m'empérer, en plus avec autant d'amour et de dévotion d'un personnage de l'histoire. Et je ne cherche pas non plus à romancer l'idée, à romancer ces scènes-là. Mais pour moi, elles étaient nécessaires dans l'écriture. J'avais envie de raconter Charlotte Salomon jusqu'à son dernier moment.
Est-ce que vous diriez à propos de ce livre, comme l'a dit Charlotte à propos de son œuvre, que c'est toute votre vie, ou en tout cas que vous y avez mis le meilleur de vous-même?
Le meilleur de moi-même, je l'espère. En tout cas, j'y ai consacré toute mon énergie.
Parce qu'il tranche par rapport à votre œuvre.
Oui, en même temps, pour moi, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire qu'il y a des livres plus légers, comme même Je vais mieux, ou j'adore qu'il y ait de l'humour dans la délicatesse ou les souvenirs. J'ai essayé de les écrire le plus honnêtement possible. Et j'aime l'idée de divertir. J'aime l'humour. C'est pas parce qu'on fait un livre sur Charlotte Salomon que c'est forcément supérieur. Disons que pour moi, la hiérarchie, elle se positionne sur l'intimité. C'est-à-dire que pour moi, là, je suis entièrement dans le livre. Donc, c'est toute ma vie, c'est une grande partie de ma vie, c'est certain. Charlotte fait partie de ma vie, de mon quotidien. Mon entourage est complètement, sous l'emprise charlottienne depuis des mois et des années. Voilà, là, j'étais encore il y a 10 jours à Chicago pour voir les tableaux qui sont exposés là-bas. Voilà, pour moi, en plus, la publication de son livre est un grand bonheur. Parce que je peux enfin parler d'elle. C'est comme si j'avais une sorte de maîtresse cachée que je peux enfin dévoiler au grand jour. Et puis, ce n'est pas une fin ni à mon obsession, ni à mon amour pour elle. J'ai envie de me battre pour qu'il y ait une place Charlotte Salomon à Villefranche-sur-Mer, qu'il y ait une grande exposition en France, que le livre sorte un peu partout, qu'il y ait un film, pourquoi pas. Pour moi, c'est ma mission
dans la
actuelle.
De Saint-Jean-Cap-Ferrat.
Il y a
une plaque aussi dans
l'hôtel. Oui, je suis obsédé par les plaques.
Oui.
Je suis obsédé par les plaques. Mais vous savez, quand vous marchez à Berlin et qu'il y a des petites plaques au sol, j'en parle dans le livre où il y a le nom des déportés. Mais ce sont des pépites comme ça, extrêmement discrètes. La mémoire qui se glisse entre les pavés. Et c'est à la fois émouvant et en même temps tellement dérisoire.
Merci David Fuenquinos, on se réjouit que votre très beau livre Charlotte reçoive déjà un accueil critique enthousiaste et également auprès du public. Vous aurez l'occasion d'en parler au Musée d'art et d'histoire du judaïsme justement le lundi 24 novembre avec la participation de Nathalie Azan-Brunet, qui est conservatrice au musée et qui était la commissaire de l'exposition, justement, dont on a parlé en 2006. Il y aura aussi sur scène Astrid Ba, qui est comédienne et chorégraphe et créatrice de la performance Life or Theatre, qui a été créée à San Francisco en 2013, qui est donc inspirée de l'œuvre de Charlotte Salomon. La rencontre sera animée par Catherine David, qui est journaliste et écrivain. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous retrouver, www.radio-rcj.info, www.mémoirevive au pluriel.net. À dimanche prochain.